Et on accueille à présent Lénaïque Monnier. Bonjour Lénaïque.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Et il est 7h, nous sommes le dimanche 12 juillet.
Je suis complètement d'accord. Il faut que ça devienne un automatisme.
Mais je pense que si c'était imposé, peut-être que je serais aussi moi-même plus discipliné que je ne suis aujourd'hui.
Faut-il porter systématiquement un masque dans les lieux publics fermés ? La réponse est oui pour 14 médecins. Ils le disent dans une tribune ce matin.
Jean Castex attendu de pied ferme en Guyane. Le département est très touché par le Covid-19 et les habitants attendent des mesures.
Coup de com' ou prise de conscience, on reparle de cette image inédite hier soir de Donald Trump portant un masque pour la première fois.
Dans ce journal également, un air de vacances souffle sur la France. Les juilletistes, comme on dit, sont arrivés. Moment réconfortant après le confinement.
On a été confinés, nous, dans un appartement. Donc on est très heureux de se retrouver en bord de mer à l'air libre.
Tout le monde va se détendre. Le bonheur.
Et bonheur également pour les fans de foot. Retour du public ce soir, enfin dans les stades.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Question. Allons-nous devoir porter un masque dans les lieux publics fermés ? L'idée fait son chemin, Lénaïque.
Oui, 14 médecins estiment que oui, ils s'inquiètent face au relâchement dont font preuve les Français par moment. Dans le respect des gestes barrières, on se rapproche les uns des autres et parfois le masque devient une option, que ce soit dans les magasins ou les cinémas par exemple. Et pourtant, porter un masque évite la propagation du virus. Alors, selon vous, bonne ou mauvaise idée ?
Les endroits clos, oui, ce serait bien que tout le monde porte des masques. Il vaut mieux être prudent.
Je suis complètement d'accord. Il faut que ça devienne un automatisme.
Je ne vous dis pas que ce soit très agréable. Moi-même, je le porte presque toute la journée et j'en ai jusque-là. Mais si c'est une prévention, why not ? Après ce qu'on a connu, je pense que c'est mieux qu'un confinement.
Bah, je préfère le faire sur quelques mois plutôt qu'on n'en finisse pas et que ça va, ça ait des nouvelles vagues. On se fait des sacrifices un bon coup et puis voilà, quoi, moi c'est fait.
Bah, je pense que si c'était imposé, peut-être que je serais aussi moi-même plus discipliné que je ne suis aujourd'hui.
Les pouvoirs politiques dans cette histoire ont un rôle majeur. S'ils ne disent pas effectivement qu'il faut le porter, bah, les gens ne le portent pas. Dans tous les endroits où effectivement il y a une proximité des gens, où ça me semble essentiel.
Si on doit le mettre dans les espaces publics, dans d'autres pays ils le font. Ça a marché, ça a fait ses preuves, donc pourquoi pas.
Et propos recueillis pour Europe 1 par Hélène Terzian.
Et cette tribune est à retrouver dans Le Parisien ce matin. Parmi les signataires, le médecin d'Europe 1, Jimmy Mohamed.
Alors que désormais, les pharmacies peuvent procéder à des tests rapides de détection des tests sérologiques qui vont permettre de dire si l'on a été en contact avec le virus et si l'on a développé des anticorps.
Et c'est dans ce contexte, Lénaïque, de crise sanitaire, que Jean Castex fait une escale express en Guyane.
Le Premier ministre est attendu de pied ferme dans un département où l'épidémie ne faiblit pas, lourdement touché également économiquement. Adrien Beck, vous êtes à Cayenne pour Europe 1. Un terrain compliqué pour ce premier déplacement de Jean Castex, loin de l'Hexagone.
Oui, Jean Castex aime aller là où ça ne va pas, nous confiait son entourage ces dernières heures. Eh bien, la Guyane ne sera sans doute pas le plus simple des baptêmes du feu. Dans plusieurs parties de ce département, grand comme le Portugal, l'épidémie semble toujours hors de contrôle. La faute notamment à une très longue et très perméable frontière avec le Brésil. Les trois hôpitaux guyanais arrivent à saturation avant un pic épidémique attendu d'ici la fin du mois. Ajoutez à cela une économie à l'arrêt dans un département où un habitant sur trois vit déjà en temps normal sous le seuil de pauvreté. Réaction trop tardive, inadaptée. La gestion de crise est un échec total de l'État, estime un élu guyanais. Si un reconfinement ne semble plus à l'ordre du jour, Jean Castex est donc attendu sur un renforcement de la réserve sanitaire qui a déjà déployé 200 soignants, sur les capacités hospitalières, mais aussi sur l'aide à la relance économique. Il n'aura qu'une petite journée pour convaincre acteurs locaux et habitants.
La relance économique, maître mot donc du gouvernement, et des pistes annoncées ce matin également dans le JDD par Xavier Bertrand, le président LR de la région Hauts-de-France, réclame des exemptions de charges et des baisses de TVA. C'est en tout cas ce qu'il attend de l'interview d'Emmanuel Macron après-demain.
Il me semble que Xavier Bertrand n'est plus membre des Républicains. Petite précision. On part aux États-Unis à présent avec une image fugace, mais qui a interpellé celle de Donald Trump portant un masque de protection.
Oui, ça fait des mois que Donald Trump refusait de porter ce masque en public, mais hier, volte-face du président américain, sous pression et fortement critiqué pour sa gestion du Covid. Alors est-ce que c'est une prise de conscience de Donald Trump ou tout simplement un coup de com' pour remonter dans les sondages ? Lugnan, qui nous explique ?
Entouré d'un groupe de conseillers, Donald Trump avance vers les caméras et les photographes. Le président porte un masque noir. L'image ne dure que quelques secondes. Le président était hier en visite à l'hôpital militaire Walter Reed. C'est la première fois depuis le début de l'épidémie qu'il apparaît le visage couvert. À en croire les médias américains, cela fait plusieurs semaines que les conseillers de la Maison-Blanche supplient le président de donner l'exemple, alors que le pays fait face à des chiffres records de cas de coronavirus. Il y a encore 10 jours, Donald Trump affirmait qu'il ne voyait pas l'utilité de porter un masque et ses supporters citent souvent son exemple pour justifier leur refus d'en porter un. Il ne faut pas forcément voir dans ce geste un changement d'attitude de la part de Donald Trump qui continue de minimiser l'ampleur de l'épidémie. Le président a expliqué qu'étant dans un hôpital, il lui paraissait approprié de se couvrir le visage. L'image est en tout cas une bonne opération de communication alors que le président est en baisse dans les sondages et très critiqué pour sa gestion de la crise sanitaire. New York, Lubna Naki, Europe 1.
Et c'est vrai que les chiffres sont alarmants. Les États-Unis ont recensé hier 66 528 cas supplémentaires. En 24 heures, c'est un nouveau record. Plus de 3 200 000 personnes contaminées, près de 130 000 morts du coronavirus aux États-Unis à ce jour.
Retour en France, à Aiguillon, la marche blanche à la mémoire de Mélanie Lemay a réuni hier après-midi environ 2 000 personnes.
Oui, c'est la commune où résidait cette gendarme de 25 ans. Elle a été tuée le week-end dernier lors d'un contrôle routier. Le maire de la commune envisage désormais de baptiser un nom de rue. Son nom, donc, Mélanie Lemay.
À Bayonne, émotion et message de fermeté hier où s'est rendu Gérald Darmanin.
Le ministre de l'Intérieur a rendu visite à la famille de Philippe Monguillot, le conducteur de bus lynché à mort alors qu'il voulait contrôler le ticket d'une personne et demander à 3 autres passagers de mettre leur masque. On écoute Gérald Darmanin.
Ce conducteur de bus ne faisait que son travail. C'est un acte absolument odieux, inqualifiable. Et je fais confiance à la magistrature pour pouvoir confondre ceux qui ont commis ces actes barbares. Jamais, comme ministre de l'Intérieur, jamais le président de la République et le Premier ministre ne vont laisser se banaliser une violence gratuite, inacceptable. Je sais que trop souvent, les citoyennes et les citoyens, les honnêtes gens, ont peur et nous sommes là pour les rassurer et leur dire qu'on a bien compris que dans cette situation particulièrement dramatique, c'est en réaffirmant l'autorité qu'on arrivera de nouveau à réaffirmer la République.
Dans le reste de l'actualité, on a appris cette nuit qu'Ubisoft annonçait plusieurs départs, dont son numéro 2 et sa directrice des ressources humaines, après des accusations de harcèlement.
Restez avec nous dans un instant, la suite du journal de Lénaïque Monnier. On s'aère un peu, les juilletistes, comme on dit. Vous en faites peut-être déjà partie, ont débarqué hier dans les campings.
Alors, on n'attend pas Patrick ?
Europe 1, les 7h08.
La matinale d'Europe 1, Sébastien Guyot vous informe. La matinale d'Europe 1, 7h-10h.
Reprise de l'actualité avec Lénaïque Monnier et Bernard. Et non, pas du tout Bernard.
Ouais, il est en vacances Bernard, laissez-le tranquille. Après une longue journée sur les routes, ça y est Lénaïque, les premiers vacanciers sont arrivés sur leur lieu de villégiature.
Et voilà, fini le confinement, fini le suivi pédagogique, fini cette épuisante période de stress. Il est temps de respirer pour ces vacanciers. Charles Guyard a suivi pour Europe 1 l'installation d'une famille angevine dans un camping de Loire-Atlantique.
Bonjour. Madame Parillo, c'est réservé.
Au camping du bord de mer à Saint-Michel-Chef-Chef, Laure remet les clés du chalet dans lequel Sarah, Pascal et leurs 3 filles vont passer une semaine.
Donc il va falloir aller tout droit, arriver à l'aire de jeu sanitaire, vous tournez à droite.
Un dernier coup de volant dans les allées après 1h30 de route depuis Angers et voilà le monospace familial garé devant la maisonnette. Un tour de clé et c'est la délivrance.
Ah, c'est sympa, il y a de l'espace.
Reste maintenant à se partager les chambres entre Jeanne et ses 2 sœurs.
Non, c'est un placard, ça.
Pour les parents, ces vacances au grand air étaient particulièrement attendues après 3 mois de confinement et les tensions qui vont avec.
Et puis surtout, on a été confinés, nous, dans un appartement. Donc là, autant vous dire qu'on est très heureux de se retrouver en bord de mer à l'air libre.
Ça permet de prendre un peu de distance par rapport à ça, tout en gardant les mesures de sécurité nécessaires. Voilà, tout le monde va se détendre. Le bonheur, quoi.
Un bonheur dans le respect des mesures sanitaires, ce que Laure à la réception ne manque pas de rappeler à chaque vacancier.
On respecte les distances et les gestes barrières.
L'accès à la piscine, par exemple, reste limité à 25 personnes. Mais qu'à cela ne tienne, avec le soleil et les belles chaleurs qui s'annoncent, l'océan fera largement l'affaire. Il n'y a qu'à traverser la rue pour y plonger.
Je souhaite quand même de bonnes vacances.
Saint-Michel Chef-Chef, Charles Guyard, Europe 1.
Le cinéma coréen a le vent en poupe, vous le savez. On se souvient bien sûr de la Palme d'Or pour Parasite à Cannes. Et ça tombe bien, Lénaïque, on en parle ce matin avec un autre film.
Oui, un polar au pays du matin calme qui s'appelle Lucky strike et c'est le coup de cœur ce matin de Mathieu Charrier.
Le film s'ouvre sur un sac de voyage d'une célèbre marque de luxe. On le suit, en plan serré, pendant de longues minutes, trimballé des couloirs d'un sauna jusqu'à un casier où il est abandonné. Et très vite, on va comprendre que c'est ce sac rempli de grosses coupures qui va cristalliser toute l'attention des protagonistes du film. Car chacun va chercher ce trésor, et parfois le trouver d'ailleurs, plus ou moins par hasard. On croisera un douanier corrompu, une maquerelle psychopathe, un prêteur sur gage, adepte du couteau bien aiguisé, aidé par son homme de main aux cheveux peroxydés, une hôtesse de bar aussi, tout le monde ment à tout le monde et n'a qu'une idée en tête, récupérer le magot. Derrière ce thriller, déjanté, sanguinolent, parfois, le réalisateur dynamite la société coréenne. Peu importe la place que l'on y occupe, tout le monde rêve d'une chose, la richesse facile. Kim Jong-un revendique l'héritage de Quentin Tarantino ou des frères Coen et ça se sent. Il confirme aussi l'écho croissant que trouve le cinéma coréen dans nos salles occidentales, depuis notamment le succès de Parasite.
Un mot de sport, le foot retrouve enfin ses supporters. Match amical entre Le Havre et le PSG avec du public dans les tribunes ce soir, c'est à 19h. Alors qu'en Espagne, le Barça est revenu à un point du Real Madrid dans la course au titre. Victoire 1-0 contre Valladolid.
J'en profite pour vous rappeler que le directeur général du club de foot du Havre, Pierre Ventier, sera notre invité à 7h45. Merci Lénaïque, on vous retrouve à 8h.
À tout à l'heure.